verrà la morte e avrai i tuoi occhi, sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso, scendere.
Cave numéro 13, tour 187, on fait rire Thérèse entre deux mobilettes. 20 ans, au bal de la Croix-Bleue, la bande de Cailly a gagné de deux yeux devant Salagro-Louis. 20 ans, sans borne et une étoile au-dessus de la tête, bâton de maréchal en plomb dans la musette. 20 ans, prendre en chemin la queue qui passe par chez soi vers l'agence qui ne remplit pas son emploi. 20 ans, 20 ans, bar tabac des avions, on expédie dimanche, on survole les cons mais on tient pas le manche. 20 ans, on se plante en amour, on foire ses suicides, c'est le compte à rebours pour des planètes vides. 20 ans, l'avenir appartient à qui se lève tôt, il aura mal aux reins et les polis au manteau. 20 ans, on rencontre papa dans des cafés flottants, on tremble pour ne pas y rencontrer maman. 20 ans, 20 ans, mon amour, bac note, sèche tes yeux d'eau claire, la graine de ton ventre a regagné la mer. 20 ans, métro, boulot, dodo, ronron, boulon, guidon, courir contre sa peau, enculer l'horizon. 20 ans, proprio de la rue, locataire du bonheur, nos rêves suspendus au boulot d'un flipper. 20 ans, faut pas croire qu'on soit fier, qu'on boude les anciens, Arthur est centenaire, Arthur n'en est pas loin. 20 ans, 20 ans, fumer dans l'urinoir des herbes naturelles, descendre le trottoir et se briser les ailes. 20 ans, des projets trop faciles et des idées trop neuves, dérivant vers la cible des tutoyeurs de jeunes. 20 ans, de la carême anti-mouche pour que tu sois moins moche, Vanessa qui louche sur ton argent de poche. 20 ans, les dormeurs qui se plaignent et le flagrant délice du policier qui règne sur son quart de police. 20 ans, 20 ans, les voici très méchants dessus leur poche vide pour voler dans le champ cette moisson facile. 20 ans, alors s'ils sont ratés, tant pis pour les automnes, ils comptent trop d'été pour coller leur odeur. Nos 20 ans, même s'ils n'en comptaient qu'un, tant pis pour nos genoux, pour un peu, pour un rien, on les garderait pour nous. Nos 20 ans, avec nos cœurs cloutés, nos bleus et nos entailles, on les a mérités autant que leurs médailles. Nos 20 ans, avec nos cœurs cloutés, nos bleus et nos entailles, on les a mérités autant que leurs médailles. Nos 20 ans.
quelle nouvelle. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, la voix de la Fédération anarchiste. Et c'est l'émission L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Comme tous les mercredis matins, de 9h30 à 11h30, pour nous écrire L'Entonnoir à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75011, Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler encore de loi sur la psychiatrie, sur les soins psychiatriques. Le CRPA, le Cercle de Réflexion, Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, Association de Loi 1901, 1er juillet 1901, donc l'avatar du GIA, voilà, pour résumer, le groupe Information Asile. Donc c'est pour la défense des psychiatrisés et la reconnaissance de leurs droits. Le CRPA donc a envoyé au Conseil d'État quatre questions prioritaires de constitutionnalité concernant quatre articles de la loi du 5 juillet 2011 pour examen déféré pour examen de constitutionnalité au Conseil constitutionnel depuis un arrêt de renvoi du Conseil d'État. Le Conseil d'État a décidé par un arrêt du 8 février 2012 de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le CRPA à propos des décrets d'application du 18 juillet 2011 de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement. Alors, avant de commencer cette interview que nous avons avec donc André Bitton du CRPA, je rappelle un peu les éléments essentiels. de la loi aussi, du, parce qu'on parle aussi, alors voilà, on a un entretien avec André Bitton et nous parlons de la loi. Voilà, bon, Nathalie vient d'arriver dans le studio. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Voilà, nous sommes un peu, voilà, j'étais pas tout à fait prêt encore quand le, quand l'heure est arrivée, quand l'heure, c'était l'heure de l'émission. Alors, la réforme de l'hospitalisation sans consentement a été adoptée définitivement le 5 juillet 2011 et l'essentiel de ces dispositions est entré en vigueur le 1er août 2011. Ainsi, la nouvelle loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge prend le relais de la loi du 27 juin 1990 qui régissait jusque-là les modes et les conditions de prise en charge des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. Donc il y a eu des transformations par rapport à cette loi du 26 juin 1990, nouvelle HDT et nouvelle HO. Alors HDT c'était avant hospitalisation à la demande entière et HO hospitalisation d'office. Il n'est plus référence au terme même d'hospitalisation, mais maintenant on va dire admission en soins psychiatriques. Les hospitalisations à la demande d'un tiers se transforment en admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, ou en cas de péril imminent, et l'HO, l'hospitalisation d'office, en admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Donc le mot hospitalisation disparaît, mais il s'agit toujours néanmoins de contraintes, et nous allons parler aussi de ça avec André Bitton, dont nous écoutons donc l'entretien. Eh bien c'est parti, tout de suite. Quelle nouvelle du Conseil constitutionnel vous avez par rapport à ces démarches ?
Alors, tout d'abord, la décision, bon, nous, on a fait une conférence de presse le 20 avril, interorganisation, où le 20 avril, c'était le jour où le Conseil constitutionnel rendait son délibéré sur l'AQPC qu'on avait déposé devant le Conseil d'État, qui était greffé sur une requête en annulation des deux décrets d'application de la loi du 5 juillet 2011, du 18 juillet 2011, qui rendait applicable certaines dispositions de la nouvelle loi. On a donc greffé deux questions prioritaires de constitutionnalité et sur l'ensemble des questions qu'on avait soulevées, c'est-à-dire sur 10 articles, 4 ont été renvoyés par arrêt du Conseil d'État du 8 février 2012, 4 ont été renvoyés au Conseil constitutionnel. Alors, il y avait, le Conseil constitutionnel a dû statuer sur 4 articles de la loi du 5 juillet 2011. Il a censuré finalement 2 des 4 articles, c'est les 2 articles portant sur le sort réservé aux patients médico-légaux déclarés irresponsables ou connaissant de l'unité pour maladie difficile ou ayant eu en antécédent dans le délai de 10 ans auparavant un antécédent d'unité pour maladie difficile de plus d'un an ou un antécédent de déclaration d'irresponsabilité. Donc il s'agit des patients supposés les plus dangereux du pays. C'est-à-dire le point nodal de ce que voulait Nicolas Sarkozy et son gouvernement, imposer des clauses drastiques pour que les patients dangereux ne puissent plus sortir. Donc on a obtenu une censure sur 2 de ces articles. Le premier article censuré, qui est le 2 de l'article 32.11.12, sur les modalités de levée dans les saisines des juges des libertés de la détention, voulait que, à partir du moment où il s'agit d'un patient médico-légal ou ayant des antécédents médico-légaux de déclaration d'irresponsabilité ou un antécédent d'unité pour maladie difficile de plus d'un an, dans les 10 ans antérieurs, le juge des libertés de la détention ne peut statuer qu'après avoir pris l'avis d'un collège soignant interne à l'hôpital, un collège de 3 soignants, composé de 2 psychiatres, un psychiatre traitant et un psychiatre non traitant, un psychiatre du secteur traitant de patients et un psychiatre hors du secteur traitant de patients.
Hein, un expert psychiatre,
c'est pas la même chose. Non, il y a en tout 5 avis médicaux à réunir. 5 avis médicaux à réunir. Avant, il y en avait que deux pour les pénaux irresponsables et pas pour les gens ayant des antécédents. Pour les gens ayant des antécédents et de médico-légaux et réinternés, il n'y avait pas de collège d'experts. Mmh. Mais la loi du 5 juillet a durci les conditions et a instauré des perpétuités de fait. Eh bien, les deux, parmi les articles qui instaurent cette espèce de perpétuité de fait par la loi du 5 juillet 2011, deux articles clés ont été censurés. Précisément censurés par le Conseil constitutionnel au motif que ces articles n'offrent pas de garanties suffisantes pour garantir les libertés individuelles de ces patients qui n'ont du coup pas assez de droits et ne peuvent pas valablement se faire entendre. Ils n'ont pas de garantie contre l'arbitraire de la mesure qui les frappe. Eh bien, ça a été censuré sur ce chef. On a donc un point essentiel de la politique sarkozyste en matière psychiatrique qui vient de s'effondrer par délibéré du 20 avril. Alors, cela étant, ça ne s'est pas effondré comme ça. Tout d'abord, le collège soignant, dans le fait que le JLD doit obligatoirement solliciter l'avis d'un collège soignant interne à l'hôpital, soit deux médecins, un psychiatre de traitant, un psychiatre non traitant, plus un cadre de santé, un cadre infirmier de santé. Mmh. Et qu'en plus, ils doivent solliciter l'avis de deux psychiatres experts près des tribunaux qu'ils désignent et qui sont inscrits sur une liste d'experts agréés par le procureur de la République. Cela fait donc 5 avis médicaux à réunir, stricto sensu, 4 avis de psychiatres, dont 2 psychiatres experts, 2 psychiatres internes à l'hôpital, plus un avis d'un cadre de santé. Or, de nos jours, les cadres de santé infirmiers, désignés par le directeur, s'intègrent l'équipe infirmière et par ses responsables, s'intègrent à la prise en charge et a évidemment un pouvoir très important. Et quand on sait qu'en plus, le collège interne de soignants est désigné par le directeur de l'hôpital, à part le psychiatre traitant, on voit que le directeur de l'hôpital, qui relève de l'administration centrale, dont la désignation relève de l'Agence régionale de santé, qui est couverte par le ministère de la Santé, on voit que l'avis du directeur devient prépondérant dans cette affaire. Puisque depuis la loi hôpital patient santé territoire de 2009, la réforme hospitalière Bachelot de 2009, les directeurs ont un pouvoir de patron sur les établissements hospitaliers et que cette tutelle se voit bien. Donc on voit bien que là, sur le fait que la loi du 5 juillet 2011 instaurait une perpétuité de fait pour des catégories de patients bien précises, eh bien le Conseil constitutionnel a néanmoins censuré. Mais non pas censuré en disant que le législateur avait eu tort d'adopter des garanties, des procédures supplémentaires pour des patients d'une dangerosité particulière. Le Conseil des magistrats constitutionnels trouve cela légal, trouve cela constitutionnel, mais ce qu'il ne trouve pas constitutionnel, c'est qu'il n'y ait pas de garantie apportée à ces patients. Et qu'il n'y ait pas, par ailleurs, sur le transfert à l'unité pour maladie difficile, en unité pour maladie difficile, il y en a 5 à l'heure actuelle en France et 4 en cours de construction, qui en cours d'ouverture. Enfin non, il y en a 6 qui sont ouvertes à l'heure actuelle et 3 en cours de construction et d'ouverture. Que donc le passage en unité pour maladie difficile ne soit pas suffisamment corseté et suffisamment garantissant pour les personnes qui sont transférées en UMD. En effet, ce n'est pas une procédure distincte, une procédure administrative distincte par laquelle on vous envoie en UMD, c'est une transformation d'une ancienne HO, d'une décision de classement par décision du représentant de l'État, qui est transformée en mesure normale, en mesure renforcée, par un passage dans une unité renforcée, sécurisée, un quartier de haute sécurité psychiatrique, qui est l'unité pour maladie difficile. À l'initiative du médecin, des praticiens hospitaliers de l'hôpital d'Envoi, sur décision du préfet. Du préfet du département d'Envoi. Et sur décision du préfet, donc sur accord des services médicaux, de la délégation régionale, de l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire l'ancienne DAS. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de décision qui vient d'un hôpital qui va être l'hôpital d'Envoi, l'hôpital de base du patient, qui va transférer dans tel UMD interdépartemental, qui va admettre de façon hautement sécurisée pendant un certain temps, de façon. Il faut savoir ce que c'est. Le régime de détention des unités pour maladies difficiles, c'est les quartiers de haute sécurité psychiatrique. Hein. Il y a des descriptions qui sont horribles, faites par des ressortissants. Je pense en particulier au pavillon 38 de l'unité pour maladies difficiles Henri Collin à Villejuif, qui est le pavillon le plus dur et le plus strict de l'unité pour malades difficiles de l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud de Villejuif, en banlieue parisienne, et qui a une réputation aussi pareille, c'est l'horreur, hein, ce pavillon. Quant au pavillon d'accueil fermé de Sarreguemines, n'en parlons pas. Montfavet également a une très sale réputation, Cadillac également. Hein. Bon. Donc, il y a eu quand même une censure sur cet article et sur un autre article, l'article 32.13.8, qui est du même ordre et qui organise les modalités de mainlevée éventuelle ou d'examen des mainlevées, soit de contrôle de plein droit, soit de contrôle facultatif à la demande des intéressés ou de leur conseil, pour les pénaux irresponsables et pour les placards ayant des ayant été déclarés irresponsables. Donc ces deux articles sont censurés. Un troisième article est déclaré inconstitutionnel, est déclaré constitutionnel cette fois. C'est le délai de 6 mois. Autrement dit, la loi du 5 juillet avait instauré sur QPC, sur une QPC du 26 novembre 2010, confortée par une deuxième QPC le 9 juin 2011, un délai à partir duquel le patient interné en hospitalisation temps complet passe au juge des libertés de la détention pour examen de la légalité du bien fondé de son internement à temps complet. Ce délai, c'est le délai de quinzaine. Avant le délai de quinzaine, d'internement temps complet, le JLD doit avoir statué. Avant le délai de quinzaine, donc il statue au 10, 11e, 12e, 13e, 14e jour au plus tard. Et si au 15e jour il n'a pas statué, la mainlevée est acquise. C'est ça qu'il faut voir. Donc c'est un contrôle obligatoire. Et après ce contrôle obligatoire, si la personne est toujours maintenue dans les murs à temps complet, le nouveau contrôle judiciaire obligatoire, c'est 6 mois après. Alors nous, ce qu'on défendait, c'est qu'entre 15 jours et 6 mois, le délai est trop long. Mmh. Et qu'il nous semblait nécessaire que le juge des libertés et de la détention, juge judiciaire, juge du siège indépendant, qui n'est pas le parquet, qui n'est pas le procureur, c'est un juge du siège, un juge indépendant, il ne reçoit pas d'instruction, doivent statuer après le délai de quinzaine à tous les renouvellements, ou de façon rapprochée à un délai à envisager. Par exemple, le délai de 3 mois, c'est-à-dire qu'il statue au délai de quinzaine, au délai de 3 mois, puis après tous les 3 mois. Bon. Mmh. Eh bien, non, là-dessus, le Conseil constitutionnel a jugé que la procédure actuelle est constitutionnelle. Et par ailleurs, et chose plus importante et beaucoup plus problématique, sur les soins ambulatoires sans consentement, sur les programmes de soins institués par la loi du 5 juillet 2011 et qui légalise la contrainte aux soins ambulatoires, pas forcément à domicile, mais ambulatoires, en dehors des murs. Bien, ambulatoire d'une part, à domicile par ailleurs pour un centre de soins et en hospitalisation temps partiel. Alors là-dessus, le Conseil constitutionnel est venu dire, est venu confirmer sur la position que défendait le gouvernement. Dans la procédure, le gouvernement avait défendu la chose suivante. L'article 32.11.2.1 et plus précisément le 2 de l'article 32.11.2.1 sur les programmes de soins est constitutionnel. Et il n'y a pas lieu de judiciariser cette procédure et de faire application de l'article 66 de la Constitution sur le fait que seul le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et qu'il y a lieu, quand il y a privation de liberté, de confier le contrôle de cette privation de liberté au juge judiciaire en tant que garant des libertés individuelles. Le gouvernement a donc défendu que les soins des programmes de soins n'étaient pas contraints et que ce n'était qu'uniquement si la personne refusait les soins qu'il pouvait être envisagé de réhospitaliser à temps complet la personne avec les garanties offertes à l'hospitalisation à temps complet, sous contrainte, à savoir au bout de 10-12 jours, le passage obligatoire au juge. Donc nous, on s'était élevé contre cette conception en disant que le texte n'était absolument pas clair, que de toute façon, une telle conception relevait d'amendements de rédaction qui avaient été déposés par l'UMP en deuxième lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui avaient visé à supprimer de tout ce texte la notion de sans consentement et la notion d'hospitalisation qui plus est sous contrainte pour substituer à ces notions la notion de soins. Soins psychiatriques sur demande d'un tiers, soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, et a supprimé de tout le texte la mention de soins sans consentement. Il n'y a pas une mention dans le texte de loi du 5 juillet qu'il y ait des soins sans consentement. Et c'est précisément ce qui fait le trouble. Et là-dessus, d'ailleurs, à ma connaissance, la plupart des juristes qui ont opéré sur la loi du 5 juillet 2011 n'avaient pas, à la base, compris que ce texte disait sur les programmes de soins que les programmes de soins n'étaient pas contraints. juste une ou deux personnes l'ont compris. Mmh. Et encore, c'était des théoriciens, ce n'était pas des praticiens du droit. Donc il y avait un véritable problème de clarté, de manque de clarté du texte. Et le Conseil constitutionnel est venu donc déclarer constitutionnel les programmes de soins en disant qu'en aucune manière on ne pouvait contraindre aux soins une personne en programme de soins et que si l'on entendait contraindre aux soins une personne sous programme de soins, tant en ambulatoire qu'à domicile, il fallait la réhospitaliser à temps complet et lui rouvrir les garanties de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet. Et donc il déclare les programmes de soins constitutionnels. Mais nous, le 20 avril, ce qu'on a tous dit, les protagonistes de la conférence de presse, c'est qu'il nous semblait qu'on atteignait, d'abord on était tous enchantés d'apprendre ce qu'a déclaré Mathieu Bellassène du collectif des 39, un psychiatre, qu'on était enchantés d'apprendre que la contrainte aux soins n'existait plus, qu'il était tout simplement devenu impossible légalement de contraindre aux soins en ambulatoire une personne, bon, qu'il fallait la réhospitaliser temps complet, on était enchantés de l'apprendre, mais que par ailleurs, le texte nous paraissait foutrement ambigu, puisque qu'est-ce que ça veut dire des soins obligatoires qui ne sont pas contraints? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, je suis obligé de me défendre. Attendez, interrompez. Mais donc, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire que ces soins obligatoires, c'est ce que déclare le Conseil constitutionnel, les soins du programme de soins sont certes des soins obligatoires, mais on ne peut pas contraindre les personnes à ces soins obligatoires. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est du même ressort que l'obligation de soins judiciaires, prononcée par un juge, dans laquelle on doit pointer à une consultation psychiatrique, mais dans laquelle finalement le contenu de la consultation n'est pas visé, n'est pas supervisé. La question de savoir si une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire prend ou prend pas des traitements n'est pas visée. Donc c'est un peu cela, et cela nous paraît d'un manque de clarté totale, et moi ça m'a amené à la conférence de presse du 20 avril à réagir pour le compte du CRPA de la façon suivante, et à dire que nous réclamerons, par le biais des contacts parlementaires que nous avons, une clarification législative. Dès le moment où une réforme, ne serait-ce que partielle, de la loi du 5 juillet 2011 devient nécessaire, puisque deux articles ont été abrogés, qu'un effet différé a été donné à cette abrogation au 1er octobre 2013, donc le gouvernement et le Parlement ont jusqu'au 1er octobre 2013, dernier carré, pour adopter de nouvelles dispositions législatives sur les médico-légaux, sur les deux articles en question, et que donc dans la foulée, il convenait d'exiger que le gouvernement et le Parlement clarifie dans les textes cette notion de programme de soins. Donc on en est là, la discussion s'est amplifiée, il y a eu différents protagonistes qui sont intervenus, des syndicats de psychiatres ont donné leur point de vue, notamment l'Union syndicale de la psychiatrie, le collectif des 39 a également donné son point de vue, la FNAPSI a fini également par donner son point de vue dans les activités sociales hebdomadaires du 27 avril, et on est tous là les uns et les autres à dire que puisqu'une brèche a été ouverte par notre par l'action du CRPA, par QPC, dans la loi du 5 juillet 2011, qu'une réforme au moins partielle est nécessaire, que nous exigeons une réforme globale.
Oui. Alors, nous pouvons revenir à quelque chose de plus général. Vous critiquez cette loi du 5 juillet 2011, mais en même temps, à travers la critique de cette loi, vous critiquez la psychiatrie tout entière, le fait que, par exemple, le refus par les personnes psychiatrisées, le refus des traitements leur soit interdit. Et ça existait bien avant le discours d'Anthony de Sarkozy.
Alors là-dessus, je veux dire que, bon, moi je dois faire un point là-dessus. Personnellement, bon, je suis un ancien du groupe Information Asile, du GIA, que j'ai présidé pendant près de 10 ans, enfin, j'ai présidé pendant 9 ans, et j'ai occupé une fonction plus secondaire pendant une année supplémentaire, ce qui fait 10, et j'en étais membre actif pendant pas mal d'années. En fait, j'étais inscrit dans la mouvance GIA pendant 20 ans. Et à travers la mouvance GIA, j'ai eu connaissance de la contestation très antipsychiatrique, très radicale des années 70. Alors nous ne sommes plus dans la même époque, et je dois dire que moi personnellement, je ne suis pas de la position qui consiste à dire les internements sont tous abusifs, il faut abolir l'internement psychiatrique en France, et ne contraindre plus personne au plan psychiatrique. Je ne suis pas d'accord avec cette vue. L'institution psychiatrique existe bel et bien, et qu'il y a bel et bien des gens qui nécessitent à certains moments donnés de leur vie des mesures de contrainte psychiatrique. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de donner aux personnes qui nécessitent des mesures de contrainte psychiatrique à certains moments donnés des garanties, que ces personnes aient des garanties, que ces périodes de contrainte soient les plus légitimes, les plus proportionnées possibles, qu'elles ne durent pas éternellement, et que dès que possible, le dialogue doit pouvoir reprendre ses droits dans la prise en charge, et la prise en charge doit être contractualisée le plus tôt possible. Donc, de toute façon, je suis de cette école, et je suis donc, en conséquence, eu égard au fait que je prends en compte la dimension de la maladie mentale. Pour moi, les maladies mentales, c'est une réalité, et il faut, au contraire, prendre en compte cette dimension, et prendre en compte les dimensions des demandes de prise en charge des gens. Énormément de gens en France demandent et sollicitent des prises en charge psy, après tout, non ? Et bien donc, compte tenu de ça, je ne suis pas un adversaire complet de nature antipsychiatrique radicale de l'institution psychiatrique. Je pense simplement que l'institution, les institutions psychiatriques sont complètement déconnantes sur plusieurs points, et notamment sur le fait que, premièrement, les institutions psychiatriques fabriquent beaucoup trop de patients chroniques, et que la chronicité, c'est un échec. Bon. Quand un patient est finalement réduit à l'état de légume, qu'il n'a plus d'intelligence, qu'il n'a plus de compréhension de soi, qu'il est déshumanisé, je ne vois pas en quoi c'est une réussite, je ne vois pas en quoi ce patient est soigné, hein, d'une part. Et d'autre part, pour moi, la psychiatrie actuelle est beaucoup trop médicamenteuse. Elle est beaucoup trop basée sur la distribution de médicaments. Et ça, pour moi, c'est un échec magistral. Pour moi, un soin psychiatrique en bonne et due forme doit permettre à la personne de contractualiser sa prise en charge, de choisir ses modalités de traitement, d'exercer son libre choix du thérapeute et de la thérapie, et de dire, je préférerais, parce que les médicaments c'est trop destructeur, je préférerais opter pour telle modalité de prise en charge, psychothérapie, psychanalyse ou autre, thérapie alternative, toute autre modalité, et rester néanmoins dans le cadre de la prise en charge institutionnelle. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que quand des patients entendent refuser les prescriptions médicamenteuses qui sont faites, on finit par leur dire, s'ils ne sont pas sous contrainte, prenez la porte, on ne vous suit plus. C'est carrément cela. C'est carrément cela. Et par ailleurs, il se trouve qu'à l'heure actuelle, beaucoup de patients sont contraints, pour leur prise en charge, de passer sur le système privé, vers la psychiatrie privée. Mais qui peut payer ? Qui peut payer ? Parce qu'il y a les dépassements d'honoraires, il y a tous ces problèmes-là. On a émis un certain nombre de revendications le 20 avril à la conférence de presse. Et parmi ces revendications, j'en cite une qui est extrêmement importante. Il est vrai que dans une société comme la nôtre, on a psychiatrisé et on continue de psychiatriser à toute berzingue. On psychiatrise beaucoup trop de gens, on psychiatrise des faits de société, on psychiatrise de simples malaises, et il est notoire que la France est le premier consommateur occidental par tête de médicaments psychiatriques. Il y a donc un véritable problème, et nous réclamons une dépsychiatrisation de la société. Ce que nous réclamons, en effet, pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'il y ait de légaliser dans les textes un droit au refus du traitement. Alors le droit au refus du traitement, il existe, hein, il existe bel et bien, mais par la négative, il existe par le droit au libre choix du thérapeute et de la thérapie dans le cadre libre, mais pas dans le cadre de la contrainte. Et puis de même, il existe dans le droit au refus du traitement, existe dans le fait que la personne doit consentir à ses soins, et que le principe du consentement libre et éclairé est un principe fondamental du droit médical, mais pas dans les cas d'exception. Et le cas d'exception psychiatrique est un des grands cas d'exception.
Dont on fait, on commence à faire une généralité un peu trop aussi.
Oui, on l'utilise beaucoup trop. On utilise l'exception psychiatrique de façon beaucoup trop facile, de façon beaucoup trop pratique. Et justement, tout l'intérêt des QPC qu'on a envoyés, pour partie, ça vient de nous, pour d'autres, ça vient des cabinets d'avocats. Hein, mais de toute façon, c'est des avocats, les avocats qui ont déposé des QPC depuis la rentrée 2010, depuis septembre 2010, sont des avocats avec qui on est en contact. C'est dans des dossiers qu'on connaît. Hein. Soit des dossiers issus du GIA, hein, en général, ou bien avec des avocats avec qui on a travaillé, ou avec qui personnellement j'ai travaillé. Donc, il est vrai que le biais psychiatrique est surutilisé. C'est vrai. Le biais psychiatrique est surutilisé. Alors, il est vrai que nous, ce que je suis en train de le préconiser à travers, en prenant appui, justement, sur la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril, parce que si on suit la décision du Conseil constitutionnel, s'il est exact qu'on ne peut pas contraindre une personne sous soins obligatoires, sous programme de soins, à part l'hospitalisation en temps complet, bien donc, ça veut dire que la personne peut refuser les soins. Si cela veut dire qu'elle peut refuser les soins et qu'on doit donner droit à son refus sauf à la réinterner, ça veut dire qu'il y a le début du commencement en France d'une légalisation du droit au refus du traitement quand la personne est sous contrainte. Moi, je préconise, dans le cadre d'une proposition de loi du groupe communiste et parti de gauche du Sénat, qui est en cours de montage, dont j'ai eu connaissance le 11 mai dernier, je préconise qu'il soit inscrit dans les programmes de soins, dans l'article sur les programmes de soins, enfin, qu'il soit proposé aux parlementaires d'inscrire au débat parlementaire, que dans le cadre du programme de soins, donc des soins obligatoires, le patient puisse refuser tel traitement et négocier son traitement et sa posologie dans le cadre des traitements obligatoires, compte tenu des effets destructeurs de certains médicaments, notamment des neuroleptiques ou des combinaisons de médicaments qui peuvent avoir sur la santé générale des personnes qui les prennent des effets ravageurs et absolument destructeurs. On connaît des personnes qui, suite à un certain nombre d'administrations neuroleptiques, ont mis des années à s'en remettre. Donc voilà, ça, ce droit au refus du traitement dans le cadre de la contrainte aux soins me paraît très important. Bon, par ailleurs, nous réclamons qu'il y ait la judiciarisation entière des procédures de contrainte psychiatrique. Nous estimons finalement que, au sortir de la période d'observation préalable, la garde à vue actuelle, la garde à vue psychiatrique actuelle d'un maximum de 72 heures, d'abord que cette période d'observation soit nette de traitement, puisse pas contraindre aux soins durant cette période les personnes.
Ce n'est pas le cas, en fait.
Non, ce n'est pas le cas. Au contraire, on peut imposer tout traitement sous contrainte pendant ces... Et donc, ça déforme complètement l'observation. Donc, ça n'a pas à être une période d'observation et de soins, mais une période d'observation tout court, où la personne est observée. Alors, le groupe communiste et parti de gauche au Sénat propose une période d'observation de 48 heures maximum, on est d'accord, mais quand bien même, je suis tout à fait d'accord, mais quand bien même ce serait maintenu à 72 heures, alors que ce soit 72 heures nettes de contrainte aux soins, et que pendant ces 72 heures, la personne puisse organiser sa défense. Bon, avoir contact avec un avocat de permanence, et nous réclamons qu'il y ait des avocats de permanence d'institués dans les hôpitaux psy et dans tous les pôles des hôpitaux psychiatriques ou généraux habilités à avoir un secteur de psychiatrie, de sorte que un avocat de permanence soit immédiatement disponible pour une personne qui est transférée sous contrainte, qu'elle puisse immédiatement voir la personne, s'entretenir avec elle, et que la personne commence à organiser sa défense. De même, d'ailleurs, nous sommes pour la légalisation entière de la personne de confiance. La personne, dès qu'elle est admise sous contrainte en psychiatrie, doit pouvoir désigner une personne de confiance qui a accès aux entretiens, qui a accès à la personne, accès au médecin, et qui, éventuellement, en présence du patient et d'un médecin, de l'équipe, peut accéder au dossier. Ce que nous demandons également, c'est qu'au sortir de la période d'observation préalable, à supposer qu'elle reste de 72 heures, il y ait passage au juge obligatoire. Qu'il s'agisse d'un continuum, sauf si la personne est donnée sortante, hein, évidemment, ou si la personne est donnée en soin libre. Si la personne est donnée à l'issue des 72 heures en soin libre, le soin est contractuel, donc le problème ne se pose pas. Mais si la personne est maintenue sous contrainte, à l'issue des 72 heures d'observation, elle est envoyée au juge des libertés de la détention, en débat contradictoire, avec un avocat si elle en veut, mais donc en débat contradictoire devant le juge sur le bien ou le mal fondé de son hospitalisation, ou sur le bien et le mal fondé du programme de soins ambulatoires, les deux modalités, et c'est le juge qui autorise le maintien en internement sans consentement ou l'instauration des programmes de soins. C'est un juge qui décide après débat contradictoire. Donc on est pour une judiciarisation. Nous réclamons des permanences d'avocats et nous réclamons que la PRI des avocats commis d'office, qui depuis le 1er août est de 4 UV seulement, et donc de 98 euros pour la représentation, ce qui est nettement insuffisant, cela pousse les avocats commis d'office à enchaîner les permanences sans soucier de l'accès au dossier et de la qualité de leur travail pour se faire 4 à 5 permanences de suite, expédier, bâcler le travail, et puis voilà, donc ça ne convient pas du tout. Nous demandons qu'il y ait une multiplication par 2 du nombre d'unités de valeur et qu'on passe à 8 unités de valeur, c'est-à-dire à 185-184 euros par dossier. Alors, nous demandons également qu'on change de philosophie des soins. Et ça, là-dessus, on est d'accord avec les gens du collectif des 39. L'hospitalité pour la folie, ça doit être une réalité. On doit profiter de la période d'internement, de la période de contrainte et des périodes d'hospitalisation en général pour établir un dialogue très dense avec les patients. C'est pas... parce que ce qui se passe dans les pavillons, qui est à l'heure actuelle une véritable catastrophe, qui a été souligné à plusieurs reprises, notamment par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Une personne est hospitalisée, elle est médiquée, puis elle est mise à l'abandon dans un pavillon. Il n'y a plus rien. Rien d'autre à faire que de regarder une chaîne de télé, une télé diffusant des conneries abrutissantes, type série américaine, à longueur de journée, il n'y a plus rien à faire. Rien, il y a les traitements, après c'est tout. C'est inadmissible. Durant la période d'observation, au contraire, cette période, durant la période d'observation d'une part et durant la période d'hospitalisation sous contrainte, ces périodes doivent être mises à profit pour nouer, mais il faut des embauches de personnel compétent, nouer avec les patients internés sous contrainte, un dialogue dense pour établir la confiance, premièrement, entre l'équipe et le patient, et deuxièmement, pour établir ou rétablir le fil d'un dialogue rompu entre la société et la personne malade, la société représentée par les personnels. Bon, donc les périodes d'hospitalisation sous contrainte doivent être mises à profit pour nouer un dialogue dense, fatalement thérapeutique, avec les personnes malades. Par ailleurs, nous, ce que nous réclamons quant aux périodes de contrainte aux soins, c'est qu'elles soient corsetées, donc judiciarisées, donc complexes. À l'heure actuelle, c'est simple de mettre une personne sous programme de soins, beaucoup plus simple que de l'envoyer au juge. Et donc, les équipes en profitent de cette simplicité en regard de la complexité de la procédure de maintien pour mettre les gens sous programme de soins, parce qu'il y a moins de paperasse, moins de certificats, et donc moins de contraintes. C'est plus simple. Donc, on fait passer la personne de l'hospitalisation contrainte temps complet vers le programme de soins parce que ça pose beaucoup moins de problèmes. Bon. Bien, nous réclamons la judiciarisation des programmes de soins de sorte que ce soit aussi complexe de maintenir une personne sous programme de soins qu'en hospitalisation temps complet et que cette complexité aidant, eh bien, les programmes de soins soient moins utilisés qu'ils ne le sont et que les programmes de soins, donc les soins obligatoires, s'arrêtent dès le moment où la personne consent aux soins. Si la personne consent aux soins, même dans le cas d'une décision sur représentant du représentant de l'État, d'une décision préfectorale, on ne voit pas pourquoi, je ne vois pas bien pourquoi il faudrait maintenir des soins obligatoires contraints. Je n'en vois pas l'intérêt. Si la personne accepte de négocier, les mesures de contrainte doivent être levées. Alors, à part le cas de dangerosité certifiée, etc., etc., pour les personnes ayant commis des faits graves et qui doivent être particulièrement surveillées. Mais alors, à ce moment-là, on tombe sur les modalités de main levée propres aux médico-légaux ou aux personnes à antécédents. Alors, sur les UHSA, les hôpitaux-prisons, nous, notre position est claire. Nous réclamons la fermeture des UHSA. D'abord, que ce soit clair, nous réclamons la fermeture des UHSA. Nous ne voyons pas bien ce que ces hôpitaux-prisons peuvent amener comme amélioration des prises en charge psychiatriques des détenus. Et il faudrait poser la question de leur prise en charge aux détenus eux-mêmes, aux proches, aux organisations associatives qui travaillent sur ces problématiques et se faire éclairer par les services du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ça me paraît la moindre des choses, de même que ça me paraît la moindre des choses qu'il y ait une concertation, par exemple, avec l'Observatoire international des prisons ou d'autres organisations. Je ne vois pas bien ce que les UHSA, donc, qui sont des unités hospitalières spécialement aménagées pour les détenus malades mentaux, qu'ils soient en demande de soins ou en soins sous contrainte, je ne vois pas bien ce que cela peut amener alors qu'il s'agit d'hôpitaux-prisons particulièrement sécurisés, réputés particulièrement inhumains, dans lequel la gestion est mixte entre le personnel pénitentiaire et le personnel médical. Il y a l'expérience du Vinatier. L'UHSA du Vinatier a été ouverte et tourne depuis un an maintenant. Donc cette expérience est... Je ne vois pas bien pourquoi on multiplierait de telles alternatives en ne se posant absolument pas la question de qu'est-ce que pourraient vouloir les détenus, qu'est-ce que pensent les organisations et les proches, les organisations représentatives, et qu'est-ce qu'une instance comme les gens qui travaillent au contrôle général des lieux de privation de liberté peuvent suggérer comme solution. Il faudrait déjà qu'il y ait une concertation d'ouverture. Quant aux UMD qui ont été créés ces dernières années, nous sommes pour la fermeture, de façon claire. Alors là, nous sommes pour une désécurisation de l'institution psychiatrique. Je ne sais pas pourquoi on laisserait faire cette tourmente sarkozyste, cette espèce de développement à toute berzingue de dispositifs sécuritaires dans tous les sens. On a même parlé d'infliger aux personnes sous sortie d'essai, des anciennes sorties d'essai sous HO, des bracelets de géolocalisation. Parce que si on en est là en matière psychiatrique, franchement, c'est incroyable. Non, il faut aller vers une fermeture de ces institutions hyper fermées, un retour au droit commun. montrer au droit commun, puis d'abord discuter avec les protagonistes, ouvrir des tables rondes, avec l'ensemble des organisations concernées et représentatives. Bien. Par ailleurs, nous prenons un droit à l'oubli. Alors la question du droit à l'oubli est redoutable. Ah oui, un autre point, nous avons demandé, nous réclamons qu'il soit mis fin au monopole de représentation de fait dont bénéficie la FNAPSI, la Fédération Nationale des Associations de Patients et Expatients en Psychiatrie, sur la représentation des usagers en psychiatrie. En effet, la FNAPSI a été mise sur pied il y a une quinzaine d'années, systématisée en 2000, à partir de 2000, et la présidente de la FNAPSI ne représente qu'elle-même. Et nous sommes, les uns et les autres, exclus de la représentation au niveau des patients et au niveau des concertations centrales, au bénéfice de cette espèce de pantalonnade et de baudruche qu'est la présidente de la FNAPSI par rapport à la représentation des usagers.
Voilà, on fait une petite pause et on reprend la conversation avec André Bitton du CRPA dans quelques minutes. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Vous écoutez L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, et nous poursuivons notre entretien avec André Bitton, là sur la parole des usagers en psychiatrie, avec une critique de la FNAPSI, et puis toujours sur les revendications du CRPA. Sur les problématiques de la contrainte psychiatrique.
Que cette représentation qui est une représentation fantoche, qui est une représentation inexistante et paralytique d'ailleurs, il doit être mis de fin à ce type de représentation, et nous réclamons qu'une table ronde soit instaurée après les législatives entre les autorités centrales, ministère de la Santé, ministère de la Justice et nos diverses organisations, pour qu'on reformule la représentation des usagers en France. Et qu'on nous inclut, parce que nous, on est exclus. Nous, enfin, les patients et anciens patients contestataires, j'ai dit anciens et CRP actuels, on est exclus des concertations depuis 97. Depuis 97, on ne peut plus intervenir dans les débats nationaux sur le terrain psychiatrique qu'avec les boulets de canon des procédures. Les hautes procédures Cour européenne des droits de l'homme, Conseil d'État, Cour de cassation et QPC. Nous n'avons plus que ces moyens pour nous faire entendre. C'est absolument lamentable. Nous avons été exclus des concertations. Alors sur le droit à l'oubli, j'en viens à ça.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les patients donc, ont un dossier, ils sont fichés.
À vie.
À vie, voilà. Ils sont
fichés. Quand on passe par la psychiatrie, on est fiché à vie. Et il s'agit de la constitution d'antécédents pratiquement opposables à vie, alors même qu'il y a un article de loi qui interdit l'opposabilité d'un antécédent psychiatrique. Il y a un article de loi dans la loi du 27 juin 1990 qui a été repris dans la loi du 5 juillet 2011, l'article L3211-5, qui interdit que les antécédents psychiatriques soient opposés, sauf s'il s'agit de majeurs sous curatelle ou sous tutelle, et dans la seule limite que les antécédents psychiatriques sont opposés sur les questions de curatelle et tutelle. Mais sauf ce cas d'exception, l'opposabilité des antécédents psychiatriques est interdite. Mais genre, tout le monde s'en fout. Des dossiers fichés sont constitués dans tous les sens. Des personnes qui ont été arrêtées comme en état d'aliénation ou supposées être d'aliénation il y a 10, 15 ou 20 ans, qui font l'objet d'un contrôle d'identité, la police ressort les antécédents et réinterne les personnes. Ça arrive très couramment, ces choses-là. Quand même, c'est inadmissible.
Il y a une condamnation par avance.
Oui,
pour des faits qui sont...
qui sont très anciens, ou qui sont révolus, ou, qui voilà, n'ont, ou même pour lesquels la personne a tourné la page. Alors nous, ce que nous réclamons, c'est ce que j'ai imaginé, c'est d'une part une réforme de l'article 3211-5 pour rendre effectif l'interdiction de l'opposabilité, et d'autre part qu'il y a alors à ce moment-là un effacement des fichiers et une destruction des dossiers. Destruction des dossiers, l'effacement des fichiers me paraît insuffisant. La destruction des dossiers me paraît être également obligatoire. Nous proposons que si les mesures de contrainte psychiatrique ont duré moins de 3 mois, le droit à l'oubli est effectif au bout de 3 ans, donc les fichiers et dossiers sont purgés au bout de 3 ans, si la personne n'a pas refait parler d'elle, évidemment. Que pour les mesures de contrainte psychiatrique ayant duré de 3 mois à 2 ans, ce droit à l'oubli, donc d'effacement et de purge des dossiers et fichiers, soit effectif au bout de 5 ans, et pour les mesures de contrainte ayant duré plus de 2 ans, pour les raisons médico-légales graves, ce droit à l'oubli serait acquis au bout de 10 ans. C'est-à-dire que pour les faits les plus graves, on doit laisser s'écouler un laps de temps de 10 ans, dans lequel la personne doit ne pas faire parler d'elle, évidemment, et si la personne ne refait pas parler d'elle, à ce moment-là, les dossiers fichés sont purgés, y compris pour des faits criminels. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, vous comprenez, c'est que, autant, je pense à l'exemple de faits graves, de faits criminels. Si vous comparaissez sur un crime passionnel en cour d'assises, le crime passionnel, c'est quelques années de prison. Tandis que si vous êtes envoyé en soins psychiatriques, par l'article 706-135 du Code des procédures pénales, soit une formation correctionnelle, décide votre achat, ou bien après une déclaration d'irresponsabilité, par l'article 122-1 du Code pénal, vous êtes déclaré irresponsable de vos actes au plan psychiatrique, et le préfet prend une décision de soins en achat, d'office par rapport à vous. Eh bien, l'achat médico-légal, la mesure de soins sur décision du représentant de l'État médico-légal, fait que, dans les conditions actuelles, c'est perpétuité. D'accord. Et par ailleurs, plus grave encore, vu le collège de soignants internes, qui doit statuer, qui doit donner son avis avant décision de m'enlever, vu le collège d'experts externes, donc 5 avis médicaux concordants, ben vous ne sortez plus. Mieux même, s'il s'agit de faits simplement correctionnels, c'est pareil, du moment que vous avez été déclaré irresponsable. Et mieux encore, s'il s'agit de faits contraventionnels, pour lesquels vous n'encourez qu'une contravention en tribunal de police, si vous avez été déclaré irresponsable pénalement, c'est pareil, du moment qu'une mesure de SDRE, une mesure de placement d'office, s'en est ensuivie. Vous comprenez que Oui, c'est quand même d'une extrême gravité. Donc je pense que, y compris pour les raisons médico-légales et en l'espèce les plus graves, de toutes les façons, pour moi, moi j'estime que personne n'est irrémédiablement fichu. Personne n'est fichu. Et que le droit à la rédemption, le droit à l'oubli, le droit au pardon, le droit de s'en remettre, le droit d'en sortir, le droit de transformer sa vie et de faire autre chose,
de dépasser
les moments les plus noirs de son existence, c'est un droit qui doit être maintenu ouvert pour tout le monde. Bien. Et que donc pour cela, le droit à l'oubli doit être ouvert. Alors, c'est ces revendications que nous avons rendues publiques à la conférence de presse interorganisation pour le compte du CRPA le 20 avril, avec une autre revendication ayant trait, comme vous le savez, une personne, toutes les personnes jeunes qui ont fait de la psychiatrie, sont frappées en France d'un eugénisme, une espèce d'interdiction à la reproduction qui n'est pas de droit, mais qui est un eugénisme de fait, et qu'en tout cas, dans les foyers de personnes, de parents ayant connu la psychiatrie, les placements à la naissance ou en cours d'enfance des bébés ou des enfants sont très fréquents. Alors, d'abord, étant donné que cela revient à une interdiction de former couple et de procréer de fait, nous estimons qu'il doit y avoir un moratoire sur les placements d'enfants dans les foyers dont les parents ont fait de la psychiatrie, de sorte qu'il y ait réévaluation de la question de savoir comment les pouvoirs publics interviennent, comment les services de l'aide sociale à l'enfance interviennent, les services de l'enfance en danger, par rapport à ces foyers, et s'il ne vaut pas mieux, dans tout un certain nombre de cas, ils sont très nombreux, accompagner les parents dans leur parentalité plutôt que soustraire les enfants. Parce que cela provoque des drames épouvantables. Donc pour nous, le circuit psychiatrique est à repenser. Mais nous ne disons pas que, à l'instar de la charte des internés de 1975 sur laquelle nous sommes basés, nous ne disons pas que nous voulons la destruction complète de l'appareil médico-policier. On n'est plus là. Ce serait bien qu'il y ait toujours des gens qui contestent dans ce sens-là, mais nous, c'est pas notre position. Nous sommes plus pragmatiques. Mais cela étant, nous avons réclamé de nous asseoir, le 20 avril dernier, de prendre appui, tout le moins, sur la charte des internés de 75, dont d'amples parties sont très intéressantes, restent d'actualité, et ont procédé d'une vue tout à fait généreuse sur la question.
André, merci. Eh bien, voilà, je pense que... Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter.
Oui, il y aurait d'autres choses à rajouter.
Oui, je me posais des questions par rapport à... Bon. Tout ce qui était dit, c'est aussi on réclame pas mal de choses pour protéger les gens, pour le respect des droits humains, le droit à l'oubli, plein de... mais par exemple sur le refus du traitement, il y a quand même quelque chose, comment on informe les gens, parce que les gens font souvent confiance à la blouse blanche. Il y a aussi toutes ces choses-là, comment, sur l'accompagnement de parents, l'accompagnement des gens, peut-être quelque chose d'une... là, on a une institution assez figée, assez peu proche de la population. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas moyen, justement, de un peu désenclaver, décentraliser au moins tout ça, et faire un travail aussi sur la société de manière à ce que la dite folie soit mieux acceptée par la société et permette justement moins d'exactions du gouvernement comme de...
Des institutions.
Oui, des institutions ou d'un gouvernement tel que celui qu'on vient d'avoir.
C'est la question de la déstigmatisation.
Oui, voilà, des stigmatisations par l'information, par un travail, je ne vais pas dire pédagogique, parce que c'est un peu trop, mais un travail sur la société, parce que là, on a les dits fous et les autres. Donc ça permet quand même pas mal de...
Moi, je pense que ce que les gens du collectif des 39, qui sont des soignants, ont spontanément et systématiquement réclamé, à savoir une hospitalité pour la folie, je pense qu'ils ont raison. Moi, je ne dis pas le contraire. Je pense que, d'abord, il faut continuer à systématiser les campagnes de déstigmatisation qui ont été timidement enclenchées ces dernières années sous l'égide du ministère de la Santé, de l'UNAFAM, de la FNAPSI, de la Fédération d'entraide à la Santé. c'est pas suffisant tout ça. Il faut effectivement des spots télévisés qui attirent l'attention. Je prends par exemple un exemple qui moi, me tient à cœur puisque j'ai entendu des voix pendant longtemps, qui consiste à dire à tout le monde, à la population, dans les spots télévisés sur des heures de grande écoute, dans les chaînes de grande écoute, TF1, France 2, le service public, toutes les chaînes du service public, il y a des gens qui sont avec vous dans la cité, qui ont des perceptions que vous n'avez pas, qui ont des visions, qui entendent des voix. Vous devez accueillir ces personnes. Ces personnes sont comme vous, sont des êtres humains, ils ne sont pas forcément malades. Et ces personnes ne sont pas forcément des malades mentales. D'abord, le fait d'entendre des voix, ce n'est pas forcément une pathologie mentale. Ça peut être une singularité, une idiosyncrasie, une façon d'être, une structuration personnelle qui fait qu'on est bon. Et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'une personne est atteinte de ce type de pathologie mentale qu'on doit forcément l'exclure, la bannir, la maltraiter, voire viser à l'anéantir et à la tuer.
Voilà, c'était André Bitton du CRPA, dont nous venons d'entendre l'interview. Et maintenant, une annonce, et puis une petite revue de presse que nous a concoctée Arnaud Le Piano, qui vient de nous rendre visite dans le studio.
Alors, nous avons une info du réseau des Français sur l'entente des voix, c'est Rêve France. Alors, toutes les informations sur www.rêvefrance, R-E-V, puis France, le tout collé, .org. Alors, c'est une asso 1901, but non lucratif, qui aide les personnes qui entendent des voix et qui ont aussi des phénomènes, qui vivent des phénomènes inhabituels, qui donne des infos, des formations, et qui soutient la mise en place de groupes locaux. Donc là, deux initiatives. Une conférence publique avec Eleanor Longdon, vendredi 14 juin à 18h30, qui s'intitule « Entente de voix, rétablissement, découverte et transformation ». Donc, c'est une psychologue primée qui a enseigné et publié à un niveau international sur l'entente de voix, le trauma, la dissociation et le rétablissement. Je vous donne tout de suite le lieu, parce qu'on est un peu pressé. Université de Paris 8, amphithéâtre D001, 2 avenue de la Liberté à Saint-Denis, 93, métro ligne 13, arrêt Saint-Denis Université. Alors c'est libre, c'est gratuit. Donc, pour cet événement, contact admin@rêvefrance.org et où on a un numéro de téléphone 06 31 87 18 89. 06 31 87 18 89. Deuxième événement, journée de formation avec Ron Coleman le 15 juin de 9h30 à 16h30. Faire face aux voix, initier un groupe d'entendeurs de voix. Alors, Ron Coleman, lui, c'est un formateur en santé mentale et consultant en prévention et autogestion des psychoses depuis plus de 20 ans, qui est lui-même entendeur de voix. Donc, c'est Cité des sciences et de l'industrie, salle Jean Painlevé, bibliothèque, niveau moins 2, 30 avenue Corentin Carieu, Paris 19e, ligne 7, station Porte de la Villette. Donc là, c'est le même numéro de téléphone et le même contact que tout à l'heure. Et donc, on redonnera à nouveau les références dans les nouvelles, dans les prochaines émissions. Donc, est-ce qu'on a encore le temps pour la revue de presse ou pas? Parce que là, il y a Thierry qui... Voilà, donc on va vous dire au revoir.
C'est le 2 juin, donc...
Le 2 juin, toujours un petit rappel au sein du FRAP... Du Festival des Résistances et des Alternatives à Paris, donc le festival complètement indépendant dont on vous a parlé. Donc là, il y a le 2 juin, une journée anti-psychiatrie de 11h à 18h30 avec plein de choses différentes, projections, débats, concerts, même événement avec l'atelier du non-faire. Il y aura un petit instant à non-faire. Et un instant artistique. Donc, c'est chez Martine, 11 cité Aubry dans le 20e, le 2 juin. Bon. Métro Alexandre Dumas, donc salut à tout le monde, à bientôt. Et je laisse place à Thierry pour le Blues en Liberté.
Oui, merci, merci. L'entonnoir, ben, ce n'est pas encore Blues en Liberté, vous savez bien, non. Alors c'est d'abord une chanson... Oh, il y en a qui trouvent que c'est un peu trop, ben tant pis. Et en plus, bien sûr, je ne sais pas où j'ai mis le CD, si c'est dans le 1 ou dans le 2. Eh ben, nous allons bien voir.